Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Cela fait un peu plus de 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, très exactement depuis le 9 août 1999. Et le président russe est à la recherche d'un nouveau souffle. S'il gouverne plus que jamais son pays sans partage, son aura auprès de ses concitoyens a pâli au fil du temps. Moscou a connu cet été des manifestations d'une ampleur inédite et malgré l'interdiction aux opposants de participer aux dernières élections locales, le résultat était un fiasco pour le pouvoir en place. Sur la scène internationale, par contre, Vladimir Poutine a retrouvé un peu le sourire. Les Occidentaux n'envisagent toujours pas de lever les sanctions économiques mises en place depuis l'invasion de la Crimée. C'était en mars 2014. Mais Emmanuel Macron a spectaculairement repris langue avec Vladimir Poutine et estime qu'il faut repenser notre lien avec la Russie, je le cite. Une initiative diversement appréciée par les Européens, mais en tout cas qui rompt l'isolement diplomatique de Moscou. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Arnaud Dubien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Observatoire franco-russe. Et une fois par an, l'Observatoire franco-russe publie Regard de l'Observatoire franco-russe. Je dirais que c'est la Bible des relations entre la France et la Russie et au-delà de la France et la Russie, entre la Russie et l'Europe. C'est disponible, on peut l'acheter ?
C'est disponible depuis le 26 septembre dans toutes les bonnes librairies.
Julien Vercueil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques à l'INALCO. L'INALCO, c'est...
L'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, un institut unique au monde.
Votre dernier livre, Économie politique de la Russie, est paru dans la collection Point. Françoise Dossé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et directrice du CERSEC. Le CERSEC, c'est le centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens. Votre dernier livre, La Russie post-soviétique, est publié à la découverte. Merci d'être en ligne de Moscou depuis le bureau de RFI à Moscou. Alors j'ai dit en introduction, cela fait 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir et 20 ans, c'est long. Même Léonid Brejnev n'est pas resté si longtemps à la tête de l'URSS. Vladimir Poutine a par exemple connu 4 présidents français. Et un jeune qui aurait aujourd'hui 22-23 ans n'aurait vu à la télévision que cet athlétique président qui monte à cheval, pêche de très gros poissons et paraît indétrônable. Alors Arnaud Dubien, Vladimir Poutine, il est un peu en concurrence avec Mobutu, avec Mugabe ou avec Paul Biya. En tout cas, ça fait parler, on a l'impression qu'il est un peu tout blanc, mais un peu comme les dictateurs africains.
Oui, enfin, je ne mettrai pas Vladimir Poutine, d'ailleurs la Russie, sur le même plan que les dirigeants que vous avez évoqués, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir du président
russe.
Certes,
mais en fait, il y a une espèce de longueur assez étonnante.
Alors, il faut quand même rappeler que il n'a certes jamais vraiment quitté le pouvoir, mais il y a eu une parenthèse, la parenthèse de la présidence Medvedev entre 2008 et 2012. Et d'ailleurs, j'observe que si c'était bonnet blanc et blanc bonnet, Vladimir Poutine ne serait peut-être pas revenu au pouvoir. Donc, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs Poutine, plusieurs présidences en réalité, avec un premier mandat qui est un mandat dont on a surtout retenu en France et en Occident la deuxième guerre de Tchétchénie, mais qui est un mandat marqué aussi par des réformes, certaines d'inspiration libérale. C'est aussi une politique étrangère pro-occidentale, surtout après le 11 septembre. Il y a très clairement des raidissements à partir des révolutions de couleur dans les années 2003-2004, le deuxième élargissement de l'OTAN. Il y a cette parenthèse Medvedev qui est un pari plutôt libéral. Et puis il y a, depuis 2012, un nouveau cycle, un serrage de vis en interne qui s'est accentué, aggravé après le début de la crise ukrainienne, notamment. Donc Poutine est là depuis longtemps, mais ce n'est pas linéaire. Il y a plusieurs présidences Poutine en réalité.
Françoise Dossé, la police, la justice, les médias, le pays est cadenassé, la répression féroce. Et pourtant, lors des dernières élections locales, début septembre, auxquelles les candidats de l'opposition n'ont pu participer, eh bien, elles se sont traduites par un échec pour le pouvoir en place. Et, disons qu'au minimum, ça a été un sérieux avertissement pour Vladimir Poutine et son parti, la Russie unie.
Oui, tout à fait. Alors, il faut peut-être rappeler tout de même que ce n'est pas le premier avertissement, hein, puisque lors de la réélection de Vladimir Poutine en 2011-2012, il y avait déjà eu des manifestations extrêmement importantes dans les grandes villes du pays, avec une mobilisation, là aussi, des couches les plus jeunes et puis des urbains des grandes villes. Donc, l'avertissement n'est pas le premier. Et au fond, les manifestations qu'on a vues cet été sont dans le prolongement, hein, de ce grand mouvement de 2011-2012 qui avait déjà porté la protestation. Alors, vous avez dit que le pays était complètement cadenassé. En fait, il faut peut-être être un petit peu plus nuancé, en fait, pour voir comment s'exerce, en fait, le contrôle. Et plutôt, en fait, qu'un contrôle complètement verticale, ce qu'on on assiste aussi à des formes de régulation beaucoup plus indirectes qui laissent place pour partie à des formes d'autonomie sociale et qui régulent en fait aux marges du système, je dirais.
En étant plus clair, ça veut dire quoi?
Alors, en étant plus clair, ça veut dire qu'en fait, le pouvoir est d'une certaine façon assez désarmé face à une société qui est très dynamique, assez jeune, qui est connectée, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, et donc intervient pour faire des exemples, je dirais, en réprimant certains activistes, souvent les plus connus, mais en laissant aussi des marges d'autonomie pour ceux qui sont tirés moins dans le viseur ou qui sont moins sous le radar du pouvoir.
Julien Vercueil, le pouvoir n'a pas autorisé l'opposition à participer à ces élections municipales. Est-ce que c'est pas une erreur d'appréciation du pouvoir? Finalement, ça a accru le mécontentement.
La question du mécontentement n'est pas uniquement liée aux questions politiques. Il y a des questions qui sont un peu plus profondes derrière les manifestations qu'on a pu voir. Et c'est plutôt dans le domaine socio-économique qu'on peut trouver ces questions profondes. C'est-à-dire que tout à l'heure Arnaud parlait de plusieurs phases dans la période qu'on pourrait qualifier de période Poutine du point de vue politique. Je crois que ces deux phases correspondent pas tout à fait, mais correspondent un peu à deux phases économiques. C'est-à-dire que du point de vue économique, on a très clairement deux périodes dans les 20 dernières années, deux décennies, une décennie brillante qui a sorti une très grande partie des Russes de la pauvreté et de la précarité.
Et c'est,
c'est la partie 2000-2008 où les revenus ont plus que doublé.
Et on voit l'apparition d'une classe moyenne.
Où la classe moyenne, elle s'est véritablement constituée à partir de 2003-2004, c'est-à-dire qu'il a fallu un processus de décollage avant. Et ensuite, une autre partie qui est, du point de vue économique, une décennie perdue, en fait. C'est-à-dire, de 2008 à 2018, une décennie entrecoupée de deux crises profondes économiquement, qui ont laissé des marques, pas uniquement dans le tissu industriel et économique, mais également dans le tissu social. La deuxième étant consécutive, la plus proche en fait, 2015-2017, elle est consécutive à la chute des prix du pétrole. Tout le monde l'attribue de façon très hâtive aux sanctions et contre-sanctions. Ces deux éléments ont aggravé le problème, mais le problème de fond venait de l'extérieur de la Russie. Et évidemment, cette crise extérieure et renvoie à des fragilités intérieures de la Russie qui a bénéficié de cette décennie brillante dans la première décennie, notamment parce que cette décennie était portée par des prix du pétrole qui ont été multipliés par 14 dans la période en question. Donc on se retrouve avec une deuxième décennie qui est une décennie de fluctuation des prix du pétrole, mais qui cesse d'augmenter très fortement. Celle-ci se traduit presque mécaniquement et avec très peu d'éléments d'amortisseurs dans la conjoncture russe, et on voit les effets d'érosion en fait de la confiance globale dans l'avenir du pays et dans la capacité des élites à gérer les crises à venir dans la population, et le sentiment aussi d'une stagnation qui touche particulièrement, je pense, les couches les plus jeunes de la population.
S'il y a un chiffre à retenir, Julien Vercueil, c'est peut-être celui-ci. Le revenu moyen des Russes reste inférieur de 10% aujourd'hui par rapport à leur revenu de 2014.
Oui, ça va changer sans doute. Ça dépend d'ailleurs beaucoup de la manière dont ce revenu est calculé, suivant que vous le calculiez en parité de pouvoir d'achat ou suivant que vous calculiez au taux de change courant. Parce qu'il y a une très très grosse donnée qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution du taux de change du rouble. Et donc ce taux de change a fortement chuté, ce qui, lorsque l'on le traduit en monnaie internationale, évidemment diminue mécaniquement le revenu en comparaison d'autres pays qui n'ont pas eu cette chute. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien avoir en tête. Maintenant, en interne, il y a eu une chute forte du revenu d'une grande partie de la population depuis 2014 jusqu'à 2017. Depuis, ce revenu, on peut dire, a cessé de chuter fortement. Voilà. Mais il y a une très forte différenciation des revenus dans la Russie. C'est un des pays les plus inégalitaires d'Europe, de l'Europe au sens très large. Il y a grosso modo que la Lituanie qui a des revenus encore plus inégalitaires que la Russie dans l'Europe au sens très large. Et donc, cette différenciation des situations entraîne une différenciation de la vulnérabilité sociale de chacune des couches de la population et entraîne une différenciation des réactions à cette période de croissance molle qu'on a connue depuis 10 ans.
Arnaud Dubien, aujourd'hui, les opposants, qui sont pas forcément des opposants politiques à Vladimir Poutine, c'est d'abord les jeunes urbains connectés qui vivent à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et peut-être un peu cette classe moyenne qui vit peut-être ailleurs, dans d'autres petites villes de Russie, et qui ont vu leur niveau de vie baisser. C'est aujourd'hui ce qui rend la vie difficile pour Vladimir Poutine, même si, c'est, évidemment, il est là pour longtemps, mais c'est ça, cette opposition.
Non, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, la classe moyenne, elle s'est contractée, une partie n'est fait plus partie de la classe moyenne, une partie est partie du pays, une autre partie se désintéresse de la politique. Ce ne sont pas forcément les mêmes gens qui manifestent aujourd'hui et en 2011. La protestation à Moscou est assez différente de celle de la province. On a vu effectivement en juin, à l'occasion de l'affaire Golunov, ce journaliste qui avait été interpellé dans le cadre d'une affaire manifestement fabriquée, au cours de laquelle le pouvoir a dû faire marche arrière, puis en août, à l'occasion du blocage des candidatures de certains candidats d'opposition, on a vu des manifestations à Moscou au nom de grands principes, c'est-à-dire la liberté d'expression, le pluralisme politique, etc. Des manifestations interdites pour certaines, autorisées pour d'autres, la plus importante ayant rassemblé plus de 50 000 personnes, ce qui est important. Mais ce qu'on voit en province, c'est un peu différent. D'abord, la sociologie est différente. Les classes moyennes, ils sont moins nombreuses. Et surtout, les gens se mobilisent non pas au nom de grands principes, la démocratie, les droits de l'homme, etc., mais sur des enjeux locaux qui touchent au
plus
quotidien.
Terre à terre.
Oui, mais qui sont très politiques, en
Bien
réalité.
Sûr.
On a vu à Ekaterinbourg, par exemple, des manifestations importantes liées à un projet de construction de cathédrale dans le principal parc public de la ville. On a vu dans le nord de la Russie, dans la région d'Arkhangelsk, des protestations liées à un projet de centre d'enfouissement. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux dossiers, le pouvoir a reculé. Ce qu'il faut noter aussi, je rebondis sur ce qu'a dit Julien Vercoeur, il y a une forme, je crois, d'impatience sociale. La Russie a plutôt bien tenu le choc en 2014-2015. Les Russes sont bons pour ça, ils tiennent le choc. En revanche, ce qui commence à peser politiquement, c'est l'absence de perspective. C'est-à-dire que les projections de croissance, je parle sous le contrôle de Julien Vercoeur, sont limitées et il n'y a plus cette perspective de 7, 8, 9% de croissance et donc de possibilité d'avoir un ascenseur social, de doubler
sa revenu. On est plutôt entre 1 et 2%.
Hein. Voilà, donc il y a une forme de, aujourd'hui, de, mais c'est peut-être plus insidieux pour le pouvoir en termes de menaces, d'impatience sociale, de désillusion, qui est généralisé à l'égard du pouvoir, même si Poutine est un peu à l'écart. Poutine, c'est à la fois sa force et sa fragilité. Il y a une forme de désamour à l'égard de Poutine, mais il reste très au-dessus de la mêlée. Et son pouvoir n'est pas menacé à court terme, il faut quand même le dire. En revanche, les autres acteurs, qui ont été très affaiblis, qui ont été vidés de leur substance, parfois même, je pense au Parlement, ne font plus tampon entre la société et le Kremlin. Absolument.
Françoise Dossé, il faut quand même dire un petit mot sur le principal opposant. Il s'appelle Alexei Navalny. Il a multiplié les séjours en prison. D'ailleurs, en ce moment, quelle est sa situation? Il est en liberté ou en prison?
En ce moment, il est en liberté, effectivement, après un été qui a été assez difficile pour lui et pour son mouvement. En fait, il a été très actif là pour durant les manifestations de cet été, avec aussi la mise en place de cette nouvelle stratégie politique qui consistait à faire à inciter les gens à voter pour tous les candidats capables de battre le candidat de Russie Unie, donc les candidats du pouvoir, quelle que soit leur affiliation politique.
Oui, ça a été ça, ce qui veut dire quand même une certaine maîtrise politique, un certain sens politique. Voter, on n'a pas pu se présenter, mais voter pour celui qui est en mesure de battre le candidat du pouvoir.
Voilà, et surtout, quelle que soit son affiliation politique, ce qui est là un élément extrêmement important. Et Alexei Navalny, comme il sait le faire, s'est appuyé aussi sur les nouvelles technologies pour mettre en place une application pour ce vote qu'il a qualifié de vote intelligent, où les citoyens, les électeurs, pouvaient identifier le candidat le plus à même de l'emporter face au candidat du pouvoir.
Alors ça a plutôt bien marché.
Dans un contexte seulement tout de même où il faut le rappeler, hein, la participation a été extrêmement faible, hein, puisque c'est à peu près 20% des électeurs qui se sont déplacés, donc on peut pas dire que ce soit représentatif non plus de l'ensemble de la population de Moscou, mais effectivement ça a plutôt bien marché puisque près de 20 candidats sur 45 hein, au Parlement de Moscou représentent désormais l'opposition, mais en même temps il faut Alors, il faut s'interroger sur cette notion même d'opposition, c'est-à-dire que parmi ces députés, on trouve beaucoup de représentants du Parti communiste. Or, le Parti communiste est lui aussi représenté à la Douma d'État et collabore sur de nombreux sujets, en fait, avec les autorités.
Cette stratégie électorale a beaucoup profité au Parti communiste.
Tout à fait, et elle montre au fond aussi l'hétérogénéité de ces diverses formes d'opposition hein, qui essayent de s'allier actuellement contre le pouvoir, mais qui sont très hétérogènes. Donc ça peut effectivement porter des résultats, je dirais, à court terme hein, dans ce type de configuration telle que celle qu'on a vue cet été, mais ça pose quand même la question de la cohérence en fait de ce type de d'alliance à plus long terme, c'est-à-dire en termes de programme politique, on voit pas très bien ce qui peut rassembler ces coalitions très hétérogènes.
C'est sûr qu'entre Alexeï Navalny et le Parti communiste, c'est un peu le grand écart dans la vision de l'avenir de la Russie. Arnaud Dubien, vous voulez rajouter un petit mot d'un mot ?
Oui, d'un mot pour nos auditeurs. Il faut rappeler qu'en Russie, il y a schématiquement deux oppositions. Une opposition parlementaire, donc représentée la Douma d'État, les communistes, le Parti libéral-démocrate de Jirinovski et Russie Juste. Une opposition tolérée, assez inoffensive généralement, en tout cas sur les questions de politique étrangère qui soutient le Kremlin, et puis une opposition dite extra-parlementaire, dont Alexei Navalny est effectivement le chef de proue. La question est de savoir s'il y a effectivement une jonction possible entre les deux à la faveur de ces mobilisations.
J'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur ce cas qui me paraît emblématique du comédien qui s'appelle Pavel Ustinov. Alors, Arnaud Dubien, en quelques mots, qui est-il ? Je crois que c'est un jeune comédien de 23 ans qui s'est retrouvé un peu dans une manifestation, pas forcément à l'insu de son plein gré, mais quand même à la périphérie.
Oui, il a été ramassé par la police, il a glissé, a heurté un policier qui apparemment s'est fait mal, et donc il y a eu une affaire criminelle qui était ouverte à son encontre. Cette affaire est intéressante parce que il s'agit d'un de ces exemples qu'évoquait Françoise Dossé. Le pouvoir, en tout cas une partie du pouvoir, a voulu faire un exemple dans une logique d'intimidation. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Comme l'affaire Golunov en juin, il y a eu une mobilisation à Moscou de certains acteurs. Mais ce qui est plus important, peut-être, au-delà de l'opposition, c'est à l'intérieur du pouvoir. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, en tout cas dans le système actuel russe, les choses sérieuses se passent non pas dans le débat public, mais en coulisses. Et il y a la diversité, elle est en coulisses, avec des libéraux à l'intérieur du système, ceux qu'on appelle les siloviki, les durs, les représentants des services secrets. Et que ce soit dans l'affaire Golunov ou l'affaire Ustinov, les durs ont voulu faire un exemple et ils ont dû reculer. Ce qui veut dire que les choses ne sont pas simples. Et contrairement à ce que vous avez pu, de façon malicieuse, évoquer au début de l'émission, la Russie n'est pas une dictature en réalité. C'est plus compliqué que ça.
Elle est un pouvoir autoritaire. Non, j'ai expliqué quand même que rester 20 ans au pouvoir, il y a qu'en Afrique qu'on voit ça. C'est le point de parallèle s'arrêter là. Mais le Russie évidemment n'est pas une dictature, mais un pouvoir autoritaire. On est quand même bien
c'est
d'accord.
C'est ni une démocratie ni une dictature. C'est quelque chose d'hybride avec des fluctuations. Et on est très clairement depuis 2012 dans une phase plus dure.
Alors les prochaines échéances électorales en Russie, c'est 2021 des élections législatives et 2024 des élections présidentielles. Alors, il peut se passer des tas de choses d'ici là, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire qu'un point de rupture est en train d'être atteint entre le pouvoir de Vladimir Poutine d'un côté et puis de l'autre côté, les Russes ?
Un point de rupture, je ne pense pas, les mots ont un sens. Il y a une érosion générale, des dysfonctionnements du système tel qu'il s'était mis en place ces dernières années. Il y a des tensions en interne, tensions alimentées par les perspectives économiques assez médiocres qui nourrissent une impatience sociale. Il y a surtout l'incertitude liée à la succession de Vladimir Poutine en 2024. Personne ne sait comment va se passer. Il y a plusieurs scénarios sur la table. Un cinquième mandat, qui est assez peu crédible en réalité, mais au fond, tout est possible en Russie.
Une nouvelle opération Medvedev.
Un faux départ ou un vrai départ. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe au Kazakhstan est observé de très près. En tout cas, cette incertitude nourrit aussi les turbulences. C'est-à-dire que les acteurs ne savent plus très bien sur quel pied danser. Et là aussi, pour rebondir sur ce que vous avez dit au début, Poutine est un président qui préside de moins en moins, qui est de plus en plus absent, ce qui perturbe le fonctionnement général du système.
Et pourquoi il est absent ?
Sans doute parce que l'intendance ne l'intéresse plus guère et qu'il s'intéresse essentiellement aux grands problèmes internationaux. Sauf qu'aujourd'hui, les principaux défis, mais défauts aussi, Julien Vercu l'a rappelé, ce sont des défis socio-économiques. Donc,
évidemment, on va aborder tout ça dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Cela fait un peu plus de 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir et le président russe est à la recherche d'un nouveau souffle. S'il gouverne plus que jamais son pays sans partage, son aura auprès de ses concitoyens a pâli. Moscou a connu cet été des manifestations d'une ampleur inédite et malgré l'interdiction aux opposants de participer aux dernières élections locales, le résultat a été un fiasco pour le pouvoir en place. Sur la scène internationale, par contre, Vladimir Poutine a retrouvé un peu le sourire. Les Occidentaux n'envisagent toujours pas de lever les sanctions économiques mises en place depuis l'invasion de la Crimée, mais Emmanuel Macron a spectaculairement repris langue avec Vladimir Poutine et estime, je le cite, qu'il faut repenser notre lien avec la Russie. Une initiative diversement appréciée par les Européens qui rompt l'isolement diplomatique de Moscou et dont nous allons parler dans cette deuxième partie de l'émission. Je vous représente plutôt les invités qui nous ont rejoints. Arnaud Dubien est le directeur de l'Observatoire franco-russe. Julien Vercueil, professeur de sciences économiques à l'INALCO. Il vient de publier Économie et politique de la Russie dans la collection Point, et Françoise Dossé, en ligne de Moscou, et directrice d'études à l'EHSS, directrice du Centre d'études du monde russe, caucasien et centre-européen, et son dernier livre s'appelle « La Russie post-soviétique à la découverte ». Alors, parce qu'elle est l'héritière de l'Union soviétique et qu'elle montre souvent les gros bras, qu'elle a un siège permanent au Conseil de sécurité aux Nations Unies et que son territoire s'étend sur 11 fuseaux horaires, on a parfois tendance à considérer la Russie comme une grande puissance, mais elle est une puissance moyenne. Son PIB est à peine supérieur à celui de l'Espagne, 3 fois moins peuplé. 11e rang mondial au niveau du PIB, 9e rang en 2013, ce qui traduit quand même une dégradation de sa situation économique. Julien Vercueil, c'est un grand pays qui est à tout d'un petit, la Russie.
Commençons par reprendre les classements que vous avez donnés, parce qu'ils sont extrêmement importants pour comprendre pourquoi on arrive à des variations de ce type-là dans l'évaluation de l'économie de la Russie. Les classements internationaux des pays par leur PIB dépendent de manière critique du taux de change qui est utilisé pour évaluer leur richesse. Et donc, lorsqu'un pays subit une dévaluation de sa monnaie, mécaniquement, son PIB se contracte beaucoup plus que ce que les Russes sur place, s'il s'agit de la Russie, peuvent sentir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé entre 2013 et 2015. Vous avez eu une dévaluation du rouble de 45%, ce qui veut dire que mécaniquement, le produit intérieur brut de la Russie exprimé en dollars diminué de près de moitié. Ce qui est évidemment pas ce que les gens sentent sur le terrain. Ils se sentent pas immédiatement beaucoup plus pauvres, 45% plus pauvres. Mais évidemment, ils le sont dans une certaine mesure, mais qui n'est pas celle de 45%. Donc il faut faire attention avec ces chiffres-là. Ceci dit, c'est intéressant quand même d'utiliser ces chiffres, parce que d'abord, la Russie est fortement ouverte sur l'extérieur. C'est un pays qui est ouvert sur l'extérieur. Ce n'est pas un pays fermé, c'est un pays qui dépend beaucoup des échanges avec le reste du monde. Donc, sa capacité d'achat à l'extérieur, qui dépend évidemment de son taux de change, compte. Et le deuxième élément, c'est que en interne, les citoyens russes, en particulier ceux des couches sociales les plus aisées, ont aussi une partie importante de leur consommation qui dépend des importations. Et donc, leur pouvoir d'achat est rogné lorsque le taux de change baisse. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015, avec en plus un autre élément qui est important, qui est le fait que cette dévaluation a provoqué une inflation et que les salaires n'ont pas suivi cette inflation, ce qui explique la chute des revenus dont on avait parlé tout à l'heure en première partie. Donc voilà, on a une économie dont on voit un point important, c'est que son taux de change est vulnérable et il varie fortement. Ça, c'est un élément d'alerte qu'il faut avoir en tête pour comprendre la situation internationale de l'économie russe.
Alors, dans votre livre, Économie politique de la Russie au point, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est dans la conclusion, l'économie russe toujours à la croisée des chemins, comme chaque année depuis 1991. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce pays dont l'économie est restée figée, dont les structures sont restées figées. Alors, évidemment, vous l'expliquez en long, en large dans votre livre avec les mêmes mots, une trop grande dépendance aux exportations d'hydrocarbures, pétrole et gaz, une faible productivité, une faiblesse des investissements, une incertitude juridique. Évidemment, on hésite à investir en Russie car on ne sait pas trop ce qui peut se passer au bout de quelques années. Le pays est figé ou il se passe quand même des choses?
Il se passe beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de rendez-vous manqués, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai employé ce terme de toujours à la croisée des chemins. C'est qu'il y a toujours des possibilités de faire des choix qui vont orienter le modèle économique de la Russie vers une trajectoire qui la sortirait de sa très grande vulnérabilité extérieure qui est celle qu'elle connaît aujourd'hui. On a une sorte de structure un peu bicéphale du point de vue de la conduite de la politique économique, où d'un côté on a une banque centrale qui cherche à donner les moyens à l'économie de se diversifier et d'être moins dépendante des recettes en hydrocarbures, mais de l'autre côté les structures fondamentales de l'économie, les grandes industries qui portent cette économie et en tout cas qui ont joué un rôle dans sa croissance dans les premiers temps, qui bien sûr se transforment aussi, parce que malgré tout, que l'on le veuille ou non, Rosneft ou Gazprom sont des entreprises internationales, elles ont aussi un œil sur ce qui se passe dans leur secteur à l'échelle mondiale, elles ne sont pas auto-centrées. Le capital de Gazprom est ouvert à des investisseurs internationaux, ils doivent donner des gages à ces investisseurs-là. Donc bien sûr ces entreprises évoluent elles-mêmes dans leur secteur, mais ce que je veux dire, c'est que la polarisation de l'économie russe, qui s'est constituée dans les années 90 autour d'un petit nombre de secteurs hypertrophiés, n'a pas été un problème véritablement pris à bras-le-corps dans les 20 dernières années. Et de cette manière-là, on aurait pu le prendre chaque année qui s'est passée depuis les débuts de la présidence Poutine. Alors,
ce que vous venez de dire là, on aurait pu le dire il y a 10 ans, est-ce qu'on le dira dans 10 ans?
Il y a des exemples de pays qui ont réussi à non pas totalement se libérer de la prégnance de ce que j'appelle le régime d'accumulation rentier, c'est-à-dire l'idée on bénéficie d'un effet d'aubaine chaque fois qu'il y a une augmentation des prix d'une matière première que l'on exporte, parce que tout simplement on possède des gisements très très importants de cette matière première. Il y a des pays qui ont réussi à le faire. Mais pour cela, il faut d'abord du temps, et deuxièmement des institutions extrêmement puissantes qui sont indépendantes d'une certaine manière, qui deviennent de plus en plus indépendantes des personnes physiques qui les ont constituées et qui finissent par s'imposer à l'ensemble des acteurs. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des problèmes structurels fondamentaux de la Russie depuis 20 ans, qui pour l'instant me rendent encore un peu circonspect quant à la possibilité que ça évolue dans les 10 années qui viennent. Je pense que c'est plus l'affaire d'une génération que de 10 ans.
Alors néanmoins, sur le plan international, le pays a retrouvé une place sur cette fameuse scène internationale, notamment grâce ou à cause de son rôle en Syrie, où la Russie soutient depuis le début du régime, le régime de Bachar el-Assad, ce qui la place comme un acteur incontournable dans cette région du monde et au-delà. Et Emmanuel Macron l'a intégré dans son approche diplomatique en recevant Vladimir Poutine dans sa résidence d'été à Brégançon, c'était le 19 août dernier. Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
À Moscou, donc, Emmanuel Macron est perçu avec un certain délice comme le leader européen qui, au nom de l'Europe, veut reconquérir la Russie. C'est en tout cas l'analyse du magazine Experte.
Et oui, voilà que la Russie se fait désirer, et ce, au nom de l'unité de la civilisation européenne. Le revirement d'Emmanuel Macron à l'égard de Moscou a été largement commenté. En Russie aussi, bien sûr. Et le magazine conservateur Experte a tenté d'analyser cette volte-face du président français qui, depuis 2 ans, s'était rangé dans le camp des États et à l'écoute des experts qui considèrent Moscou comme un adversaire politique. Eh bien, Macron a tendu l'oreille à d'autres conseillers politiques, Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, par exemple, qui prêche depuis longtemps en faveur d'un rééquilibrage des relations avec la Russie. L'Europe, dit-il, doit reconnaître ses erreurs à l'égard de la Russie et se ressaisir, car il serait trop dommage de pousser définitivement la Russie dans les bras de la Chine. D'autant qu'avec un Donald Trump à la Maison-Blanche, on n'est jamais trop prudent. Et s'il gagnait les élections de 2020 et normalisait les relations avec la Russie dans le dos des Européens et sans tenir compte de leurs intérêts? Non, décidément, l'Union européenne doit constituer un pôle alternatif face aux Américains et aux Chinois, semble avoir compris Emmanuel Macron. Et le voilà qui se projette en leader de l'Europe, unifiant le continent de Lisbonne à Vladivostok. Poursuit le titre avec ironie. Le général de Gaulle arrêtait sa vision du continent à l'Oural.
Pour Experte, Macron a du cran, en tout cas c'est ce que reconnaît le titre, mais au vu du passé, évidemment, il faut se méfier du côté de Moscou.
Et oui, et se contenter de ce constat, la situation de l'Europe est défavorable, et elle est sollicitée à repenser très profondément le lien avec Moscou. Mais le journal a le sentiment que la politique de l'Est de Macron n'est pour l'heure que du bricolage. Impossible de construire une nouvelle politique de sécurité commune avec l'Europe sur de telles bases, conclut le journal, et encore moins de recréer l'unité de la civilisation européenne que Macron appelle de ses voeux.
Merci Laurence Saint-Bier, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, Arnaud Dubien, à lire Experte, on a un peu l'impression d'un procureur menteur qui, de la France et de l'Europe, ou de la Russie, a expressément le plus besoin de l'autre.
Je crois que la Russie a besoin de l'Europe, de l'Union Européenne en tout cas, de la France a besoin de la Russie, l'Union Européenne a probablement besoin de la Russie aussi. La question, c'est qui sort du bois le premier, qui fait le premier geste, et il est très important, vu du Kremlin, de ne pas apparaître comme faible, de ne pas apparaître en position de demandeur. L'analyse qui est faite au Kremlin, c'est que la Russie n'est pas isolée en réalité. Elle a beaucoup de partenaires, en Asie notamment, en Afrique, au Moyen-Orient, dans tout le monde non occidental. Mais évidemment, le fait que on assiste en France à ce débat sur la politique russe, à ce qui apparaît comme un revirement potentiel, est reçu avec beaucoup de délectation au Kremlin.
Le pays est toujours à la recherche de sa grandeur passée du temps de l'URSS.
Oui, mais selon des modes différents. Il n'y a plus d'idéologie communiste, évidemment. La Russie considère que la vocation est une grande puissance. Et peut-être que dans l'histoire de la Russie, peut-être du fait de ses faiblesses intérieures, le prestige extérieur a toujours joué un rôle plus important que dans d'autres pays en termes de légitimation de ses dirigeants en particulier. Donc oui, la Russie considère qu'elle a vocation à être une grande puissance, à rester une grande puissance. Et Vladimir Poutine observe par ailleurs qu'une partie de sa popularité, à une époque en tout cas de sa présidence, pas si lointaine que ça, a été liée à ce projet extérieur de puissance, de restauration de puissance.
Alors Françoise Dossé, on comprend qu'Arnaud Dubien fait référence à l'aventure ukrainienne, l'annexion de la Crimée d'un côté et puis la guerre dans le Donbass, qu'on peut mettre peut-être en parallèle avec l'intervention en Syrie. C'est pas perçu de la même façon par les citoyens russes, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Syrie.
Alors pour comprendre en fait la position de la Russie sur la scène internationale, il faut articuler aussi avec ce qui se passe effectivement à l'intérieur du pays, et on est toujours à la croisée des deux domaines, je dirais. Et en fait, les événements en Crimée, l'annexion de la Crimée en 2014, s'est déroulé dans un contexte où la popularité de Vladimir Poutine à l'intérieur du pays avait été contestée après ces manifestations de 2011-2012. Donc il y avait aussi une volonté probablement de ressouder la population autour de son leader, hein, de son président, avec une attention très vive portée au patriotisme et au développement du patriotisme dans le pays. Alors on en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais il y avait vraiment cette volonté de souder la population autour d'un projet patriotique, et le retour à la grandeur sur la scène internationale s'inscrit dans cette promotion du patriotisme.
Et ça a plutôt marché, sa popularité a grimpé.
Voilà, ça a plutôt marché, sa popularité a beaucoup grimpé après 2014, mais elle s'érode à nouveau actuellement. Sur la scène internationale, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la Russie est présente, je dirais, en termes militaires, hein, c'est ce qu'on a vu en Syrie avec cette intervention militaire de la Russie pour soutenir Bachar el-Assad, mais elle est aussi revenue sur la scène internationale par d'autres moyens qui sont plus des modes d'influence culturelle ou médiatique, hein. Et ça, c'est ce qu'on a vu plutôt du côté de l'Europe, avec le développement notamment de la fameuse chaîne de télévision RT par exemple, ou du site Sputnik, qui relaie en fait les positions politiques de la Russie dans les sociétés occidentales.
Alors, autant l'aventure ukrainienne et dans le Donbass a été globalement populaire auprès des citoyens russes, c'est pas du tout le cas de la Syrie, de l'aventure syrienne, qui est évidemment coûte cher dans une économie, Julien Vergueuil nous l'expliquait, un petit peu en difficulté, et qui n'apporte pas grand-chose directement, en tout cas aux citoyens, même si effectivement elle rend incontournable la Russie sur la scène internationale, notamment au Proche-Orient.
Alors je pense que sur l'intervention de la Russie en Syrie et ses répercussions intérieures, je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, effectivement, le coût de ce type d'opération internationale très élevé, qui suppose aussi un renforcement du potentiel militaire de la Russie, aux dépens peut-être d'investissements dans d'autres secteurs de la société. Et c'est vrai, quand on discute avec des habitants de Moscou, par exemple, ils s'inquiètent en fait de ces dépenses militaires qui augmentent, alors que les dépenses, par exemple, pour les écoles ou pour les hôpitaux seraient en diminution. Donc il y a vraiment cette inquiétude à l'égard du coût de ces interventions militaires. Et puis l'autre aspect, je dirais, il y a une question aussi de génération, c'est-à-dire ce discours de retour à la grandeur passée, de retour à l'ordre sur la scène intérieure et sur la scène internationale est très audible probablement pour les générations les plus âgées en Russie, c'est-à-dire ceux qui ont connu à la fois la fin de l'Union soviétique, mais aussi les désordres, le chaos des années 90, et qui sont favorables à cette politique de retour à l'ordre intérieur et à la grandeur internationale, mais ça apporte beaucoup moins auprès des jeunes générations qui sont des générations très éduquées d'abord, et qui sont aussi très connectées, notamment par le biais d'Internet, et complètement insérées dans ces nouvelles pratiques du numérique qui sont très globalisées. Donc je dirais que c'est ce discours de la grandeur, de la puissance, du patriotisme porte beaucoup moins auprès de ces jeunes générations nées à la fin des années 90, au début des années 2000.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, Vladimir Poutine, 20 ans déjà. Nous sommes avec Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, avec Julien Vercueil, professeur de sciences économiques à l'INALCO, et avec Françoise Dosset, directrice du CERSEC, le Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens. Arnaud Dubien, vous vouliez réagir
Oui, il y a deux choses liées à l'Ukraine et à la Syrie. L'Ukraine parle russe pour différentes raisons. Ce n'est pas une émission consacrée à l'Ukraine, mais il est évident que ce qui s'est passé en 2013-2014 parle à beaucoup de citoyens de Russie et donc a un impact sur la popularité du président. La Syrie, c'est loin. La Syrie, c'est pas la Russie. Et tout le monde le comprend très bien. Je suis pas tout à fait d'accord sur le coût de l'opération. Je crois que il y a deux clés du succès pour l'instant de l'opération russe en Syrie. C'est son faible coût économique. En réalité, c'est incomparablement moindre
que l'aventure afghane,
L'aventure afghane des Américains ou l'aventure irakienne des Américains. Quand vous regardez le nombre de centaines de milliards de dollars dépensés par les États-Unis en Irak ou en Afghanistan, ça n'a rien à voir. On parle de 4 à 5 millions par jour, ce n'est pas rien, mais c'est parfaitement assumable par budget russe, et surtout un déploiement militaire très limité avec des effets politiques majeurs. Donc pour l'instant, le pari est plutôt gagnant.
Et en contrepartie, ça permet de voir l'armement russe en fonctionnement, en situation réelle, ce qui plaît toujours aux acheteurs potentiels.
Absolument, mais encore une fois, l'impact, il est plutôt dirigé vers le monde extérieur. Ça parle pas beaucoup à l'opinion publique russe.
Julien Vercueil, stratégiquement, la Russie a le choix entre les États-Unis. Ça rappelle un petit peu la stratégie de la guerre froide, cet affrontement, mais en tout cas, on existe grâce et par rapport aux États-Unis. Et puis évidemment, la Chine, qui est le grand voisin, mais elle risque de peser peu dans une bipolarisation du monde sino-américaine.
Oui, c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle elle ne souhaite pas s'enfermer dans un choix binaire. C'est-à-dire que je pense que toute la difficulté aujourd'hui, mais aussi les opportunités qui peuvent s'ouvrir à l'Europe, et de ce point de vue-là, à la politique d'Emmanuel Macron, c'est justement de se rendre compte qu'il n'est pas question d'une bascule complète de la Russie. Il y a eu une période très pro-européenne, très pro-occidentale. Et donc c'est une longue période qui traverse plusieurs crises, qui traverse plusieurs gouvernements.
Hein. Avec une interrogation, les Européens n'ont pas été forcément au rendez-vous qu'attendaient et qu'espéraient les Russes.
Dans toutes ces périodes-là, il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises du côté occidental qui sont absolument indubitables. On peut pas non plus rentrer, je pense, dans le détail des années 90, mais c'est...
Mais globalement, l'élargissement de l'OTAN était mal perçu.
Particulièrement parlant, et même en termes économiques. C'est-à-dire, en termes économiques, vous avez eu des gestes qui ont été faits vis-à-vis de la Pologne qui n'ont jamais été fait vis-à-vis de la Russie. Et tout ça, ça nourrit des incompréhensions du côté russe. Et le point important aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, dans une première période, il y a eu une véritable appétence, un véritable appétit pour les institutions européennes de la part de la Russie, de Vladimir Poutine et de Dmitri Medvedev aussi. Et on voit une bascule au milieu des années 2000 qui s'aggrave et s'accélère dans la deuxième partie des années 2000 et puis qui est ensuite, évidemment, de crise en crise, vers un véritable divorce. Si l'on prend le point de vue de l'Union européenne, les occasions manquées de l'Union européenne sont aussi liées à des faiblesses économiques internes de l'Union européenne. La crise de la zone euro a été observée avec beaucoup d'inquiétude par les économistes et les responsables russes au moment où elle a eu lieu, parce que l'euro est une monnaie qui reste encore aujourd'hui une monnaie de référence, et la construction européenne a été mimée par la Russie pour son étranger proche, rouge pour l'ensemble des pays de l'ex-Union soviétique qui voulaient bien revenir dans une coopération économique avec elle. Donc cette idée que on bascule totalement de l'Occident vers la Chine est une idée qui n'a jamais été, hormis dans un ou deux discours, mais qui était là plus pour faire illusion, qui n'a jamais été sérieusement prise au sérieux. Donc en fait, ce que cherche la Russie, c'est d'essayer d'éviter d'être dans une relation binaire, que ce soit avec la Chine qui représente entre 8 et 10 fois la taille de l'économie de la Russie, 20 fois son industrie. Il y a 20 fois plus de production industrielle en Chine qu'en Russie, ou que ce soit évidemment avec l'Union européenne qui a à peu près la même taille en termes économiques que la Chine, et donc avec cette même asymétrie très forte. Donc il faut garder ça à l'esprit et garder aussi à l'esprit le fait que tout cela est conditionné par l'écart très important entre les potentialités en termes de puissance diplomatique de la Russie qui sont indéniables, mais et ses potentialités économiques qui sont beaucoup plus moyennes, comme vous l'avez dit.
Arnaud Dumas, vous nous avez expliqué au cours de cette émission qu'il y avait eu en 20 ans plusieurs périodes de Vladimir Poutine sur le plan économique, sur le plan politique, et on peut quand même relever que autant Vladimir Poutine a fait quelques pas en direction de l'Europe au sens large du terme et de l'Occident, il fait aujourd'hui de la détestation de l'Occident, un pilier de sa politique. Alors, est-ce qu'il peut être l'homme du rapprochement entre ce qu'est la Russie aujourd'hui et puis l'Union européenne, qui est évidemment quelque peu hésitante toujours à l'égard de la Russie?
Sans doute, parce que Vladimir Poutine est un Européen déçu, amer, pour les raisons qu'on a évoquées, les rendez-vous manqués depuis 1990-91, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais l'univers mental de Vladimir Poutine, il est européen. Vladimir Poutine a vécu et travaillé en Allemagne, alors une Allemagne un peu particulière, l'Allemagne de l'Est, mais encore une fois, sa vision du monde reste, malgré le discours politique, je pense, encore européo-centré, alors que le discours russe et la pratique russe de plus en plus cherchent à explorer le reste du monde. Donc, comme
l'Eurasie.
Oui, mais pas seulement l'Amérique latine, l'Afrique, les BRICS. Je crois qu'il y a eu, si vous voulez, la Russie, malgré l'aigle bicéphale et cette double vocation revendiquée dans l'histoire, vocation européenne et asiatique, jusqu'à une période très présente, se voyait surtout comme une puissance européenne ayant des dépendances en Asie. Ce qui est nouveau, et ce qui est d'ailleurs antérieur à la crise ukrainienne, on le perçoit dès 2012 et le sommet de Vladivostok, le sommet de l'APEC, c'est une volonté finalement de jouer sa carte en Asie notamment. Cette tendance s'accentue avec la crise ukrainienne et les difficultés avec les Occidentaux. Mais comme l'a dit Julien Vercoeul, il ne s'agit pas d'un basculement, il s'agit d'un rééquilibrage. La question étant de savoir où s'arrête le curseur. Aujourd'hui, les choses sont allées assez loin avec les Chinois. Il y a des seuils qui ont été franchis dans le domaine des industries d'armement, dans le domaine énergétique. Ce n'est pas anodin du tout. Ça a longtemps été sous-estimé en Occident. Aujourd'hui, on voit que ça devient un argument pour se rapprocher à nouveau de la Russie. En tout cas, il faut l'étudier finement. Il y a également le Moyen-Orient. Mais il est certain aussi que beaucoup de Russes, et y compris au sein du pouvoir, ne se satisfont pas des relations actuelles avec l'Occident au sens large, et avec l'Europe en particulier. Il y a la claire conscience que ce n'est pas satisfaisant, que c'est un petit peu aberrant, que on ne reviendra pas en arrière, mais qu'il faut chercher à, dans le contexte incertain, le contexte de la montée en puissance de la Chine, de l'incertitude américaine, que la Russie aurait intérêt finalement à retrouver des marges de manœuvre avec l'Union européenne.
Alors il faut aussi peut-être que la Russie soit, je dirais, plus proactive, plus séduisante, car la Russie a toujours un peu de mal à être séduisante. Il faut à un moment ou à un autre convaincre les Polonais, les Baltes ou encore les Suédois, c'est pas facile.
Je pense que c'est une cause perdue, convaincre les Polonais et les Suédois et les Baltes. Et je pense que c'est très clairement compris aussi à l'Élysée. Et je pense que l'une des grandes interrogations liées aux initiatives d'Emmanuel Macron sera sa capacité d'entraînement ou sa capacité à rejouer une carte finalement nationale ou franco-allemande sur la Russie. Il est clair, et c'est là aussi l'un des problèmes fondamentaux de la relation russo-européenne, depuis l'entrée des pays que vous avez évoqués dans l'Union européenne, il y a un blocage à l'égard de la Russie. Pourquoi ? Parce que ces États ont importé de fait leur histoire avec la Russie, et cette histoire est tragique souvent. La question est de savoir si on en reste là ou on cherche à aller au-delà. Je pense que l'un des paris d'Emmanuel Macron, c'est de prendre les choses en main et de refaire de la France ce qu'elle a longtemps été, c'est-à-dire un interlocuteur politique privilégié de Moscou en Occident.
Alors un pari osé, mais la Russie a aussi bien des faiblesses qui la tenteraient de rejoindre un peu l'Europe, des faiblesses démographiques, des faiblesses économiques, on l'a déjà cité. Est-ce que la Russie va pouvoir longtemps jouer toute seule, compte tenu de ses faiblesses démographiques et sa faiblesse économique, comme ça, jouer les bouts de feu un petit peu partout.
C'est une grande interrogation. La Russie se voit, depuis une vingtaine d'années, comme un pôle de puissance indépendant. La grande césure, elle est là. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, depuis Gorbatchev, la Russie se voyait comme ayant vocation, finalement, à rejoindre un Occident élargi. Il y avait cette idée d'une convergence, in fine. Convergence qui, d'ailleurs, était plutôt l'adoption du modèle occidental. La grande leçon de 2014, c'est que la Russie dit, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de convergence. Chacun suit sa propre voie et ses voies divergent. Et en tout cas, elle ne se voit pas comme ayant vocation à basculer d'un côté ou de l'autre, à rejoindre soit le camp chinois ou à devenir un satellite de la Chine, ni à devenir un satellite de l'Union européenne. Donc la voie est étroite, ce n'est pas nouveau, c'est un défi permanent au vu du potentiel russe, mais c'est une équation avec laquelle devra composer Vladimir Poutine et son successeur.
La Russie est-elle européenne? C'est un débat récurrent, on fera une autre émission. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, avec Maria Fonso et Laurence Abbé de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités et leurs publications. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Moscou, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.